Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sûr à l'écoute encore et toujours de Radio Canu sur le 102 MHz et sur le net. Vous êtes en compagnie de Delphine.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et Laurent pour ce Canu Info de ce jeudi 17 novembre, enfin on va dire 2016, ça sera mieux. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, je pense, la grosse majorité des médias s'est fait le porte-parole de Monsieur Emmanuel Macron. Cette semaine, lors de son annonce à la candidature pour le poste de président de la République. On notera que ce très libéral personnage se présente en tant que candidat anti-système, ce qui nous fait quand même pas mal rire au Canu Info. Donc, candidat anti-système, alors qu'il est soutenu par tous ces beaux médias, plus ou moins dominants, qui se sont jetés sur lui, telle la mouche sur la belle et fraîche bouse que viendrait de pondre. On n'est pas obligé de dire pondre, mais on peut dire comme ça pour une belle vache libérale. Pourtant, quand on regarde bien de près, rien chez lui ne fait anti-système. Il est issu de l'ENA, cette fameuse école élitiste où sortent la majorité des gros politiques. Il était haut fonctionnaire à l'inspection des finances. Il était, alors ça on le sait tous, hein, banquier d'affaires chez Rothschild et compagnie. Mais alors il n'était pas que banquier. Hein. Il a même été nommé à un moment gérant. Carrément, co-gérant de Rothschild & Field et une compagnie plutôt. Et il a géré notamment les négociations d'un énorme rachat, le rachat par Nestlé de la filiale de Pfizer. Et là, il s'était enrichi, puisque c'est à partir de ça qu'il est devenu millionnaire. Oui, Macron est millionnaire, est très riche. Il était aussi secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et il était ministre de l'économie, et pour aller jusqu'au bout du fait qu'il n'est pas du tout anti-système, si vous le regardez, jusque dans son look, il est totalement intégré au système politique puisqu'il se promène constamment en costard, cravate. Voilà, c'est tout sauf quelqu'un d'anti-système. Vous allez me dire, c'est un petit peu la mode en ce moment pour les futurs candidats à la présidentielle de 2017 de se présenter sous la forme d'un candidat soi-disant anti-système. Le plus gros exemple, dirons-nous, de mensonge éhonté, c'est bien évidemment la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen, qui donc se prend elle aussi pour une anti-système. Pourtant, si on regarde bien, elle est fille de millionnaire. Alors c'est pas tout à fait quand même anti-système d'être fille de millionnaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle était avocate au barreau de Paris, elle a commencé en 92. Et elle est rentrée d'ailleurs au cabinet de Georges Paul Wagner, cabinet d'avocat, mais elle n'est pas rentrée pour ses... a priori pour ses compétences, mais surtout par copinage, puisque c'était un ami intime de la famille Le Pen. Et en 98, elle arrête tout ça, et depuis 98, elle est professionnelle de la politique, donc elle abandonne son métier d'avocate. Finalement, si on regarde, elle n'aura exercé un vrai métier, ce métier d'avocate, que 6 ans. 6 ans de travail pour Marine Le Pen, qui a 47 ou 48 ans aujourd'hui. Ou quelque chose comme ça. Ça fait quand même pas très représentatif de la population. Alors c'est peut-être anti-système d'être entier, c'est peut-être ça. Hein, donc bref, en 98, lorsqu'elle arrête de travailler réellement dans la vraie vie, donc elle a 30 ans, elle devient une sorte de rentière politique et pécuniaire du Front National, parti créé par son père qu'elle a depuis viré Manu Militari. Et pour une candidate soi-disant anti-système et qui crie à tour de journaux, de micros, qu'elle est boudée par les médias, l'ouverture de son nouveau QG à Paris cette semaine a été plus que largement traitée par la presse écrite, radio aussi, la presse télé, laissant les lecteurs ou auditeurs proches de l'overdose devant tant de servilité journalistique, puisque c'est de ça dont il est question, il n'y avait pas de réelle critique approfondie sur l'extrême droite véhiculée par Marine Le Pen. Comme quoi, à l'instar de Pinocchio, elle devrait avoir elle aussi un nez de plusieurs kilomètres de long, puisqu'elle est tout sauf une candidate anti-système. Bref, cette semaine a été dominée par toutes ces informations autour des élections, la future élection du candidat à la primaire de la droite, où bizarrement d'ailleurs Macron ne se présente pas, où il aurait pourtant totalement sa place, on en parlera tout à l'heure, la future élection présidentielle française, on en parle à tour de bras, enfin les médias dominants, l'analyse de l'élection de Trump à tort et à travers, la victoire des pro-russes aux élections bulgares et moldaves, on en parle un peu moins, mais on en a parlé, le report des élections professionnelles dans les TPE, hein, qui a repoussé en janvier, voilà, élections, bref, on parle essentiellement du théâtre électoral et de ses comédiens, mais on parle rarement de démocratie et des vrais problèmes de société, comme on dit finalement, élections, piège à con. Voilà, toutes ces élucubrations aussi électoralistes que malsaines ne nous empêcheront pas de traiter ici, dans le Canu Info du jeudi, de plein d'informations, dont une en lien avec les élections, puisque nous parlerons des candidats à la primaire de la droite et nous allons pleurer sur leur programme. Ensuite, on parlera un peu des profiteurs et c'est la famille d'Entrée Sangle qui est aujourd'hui au cœur du débat. On parlera de Turquie, hein, toujours plus fort dans la dictature. On parlera de religion, c'est pas mieux au niveau dictature. On va parler d'art, vous allez voir, entendre en tout cas, et puis on parlera un petit peu de ce qui se passe à Lyon et de plein d'autres choses si nous avons du temps. Voilà pour le programme, commençons tout de suite par ces fameux candidats à la primaire de la droite où il n'y a pas Macron, assez bizarrement, pourtant il est plutôt à droite.
Vous savez donc, il y a un nouveau débat aujourd'hui avec les 7 candidats à la primaire de la droite. Le premier tour de cette primaire est dimanche, ce dimanche 20 novembre. Je voulais juste qu'on soit bien bien clair ensemble, hein, qu'on ait bien fait le tour de deux propositions. On va pas en parler de plus, en fait, on va parler du travail. Parce que je me suis aperçu que donc ces 7 candidats ont tous les mêmes propositions, bien évidemment, sur le travail, mais aussi sur la prison. C'est-à-dire, globalement, ils nous souhaitent du travail ou de la prison. Hein, parce que là, il y a quand même une certaine unité. Alors, tout est après histoire de nuances, de clientélisme, voire de populisme, bien évidemment. Alors, pour Monsieur Sarkozy, il est comme les autres, c'est-à-dire qu'il aimerait bien que ça soit les entreprises qui déterminent librement le temps de travail, tout ça dans une limite de 37 heures, dit-il. C'est donc négociation aux 37 heures. Et puis, il aimerait bien aussi que les entreprises puissent, du coup, déclencher le seuil des heures supplémentaires. Hein, vous voyez, ça aussi, ça se ferait au niveau de l'entreprise. Et puis, il aimerait bien aussi que dans la fonction publique, messieurs et mesdames, vous travaillez un petit peu plus. Il paraît que vous ne travaillez pas assez. Donc, il aimerait bien vous faire travailler jusqu'à 37 heures. Hein, aussi, tout pareil.
Alors, c'est bizarre parce que dans la fonction publique, les profs bossent plus de 37 heures.
Non, mais tu sais, en fait, le temps de travail dans la fonction publique est relatif. C'est-à-dire que toutes les fonctions publiques n'ont pas les mêmes métiers, déjà. On rappellera que travailler en hôpital, c'est pas la même chose que d'être derrière un bureau. Donc, tout ça... vous allez voir, hein, tous méconnaissent finalement assez mal la fonction publique, même si certains ont pu, comme tu le rappelles, y faire aussi parfois des petits trajets. Mais en même temps, c'est jamais la catégorie C, vous voyez, même la B. Hein, c'est pas le même genre.
Ils sont dans le haut, des hauts fonctionnaires. Oh,
quand ils y passent, ouais. Bon, pour M. Sarkozy, c'est pas le cas. Mais enfin, non. Voilà. Alors pour Monsieur Juppé, là on est sur toujours les entreprises qui doivent décider, mais on est sur une base de 39 heures. Alors tout le monde tue les 35 heures, je vous préviens tout de suite. Soit vous, dans votre entreprise avec Monsieur Juppé, vous arrivez à vous mettre d'accord sur un temps de travail qui peut être 35 heures, 37 heures ou 39 heures. Soit vous n'y arrivez pas et c'est les 39 heures qui vous sera imposé. C'est facile. On risque un petit peu, nous, les salariés, de se battre avec notre patron. Donc, le patron, il risque vite de gagner. Vous voyez un petit peu le problème, quand même. Il veut aussi augmenter le temps de travail de la fonction publique avec des négociations comme dans le privé. C'est-à-dire que ce seraient les chefs et les fonctionnaires, les représentants, vous voyez, qui iraient discuter. Alors, lui, il fait bien la différence entre les différentes fonctions publiques et les corps de métier à l'intérieur de ces fonctions publiques. Mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que là, c'est quand même chacun sa merde, chacun sa lutte. Hein. Ah, ça, il faut bien se rendre compte si on nous sépare. Même dans la fonction territoriale, territoriale, par exemple, où il y a plusieurs corps de métier. Si chacun dans son corps de métier va commencer à négocier, on n'a pas fini, on n'est pas prêt de gagner. Pour monsieur Fillon, François Fillon, alors lui, il veut aussi que ça soit les entreprises et les salariés qui négocient librement. Hein, parce que tout le monde emploie ce terme librement, donc pour négocier librement la durée du travail, mais lui, il est dans la limite des 48 heures, c'est-à-dire le plus haut de la fourchette. Ah ouais, tu peux le dire, hein. Il fait pas semblant, et puis il aimerait passer le secteur public à 39 heures, c'est important hein, pour lui, parce qu'il estime que on va faire des réductions d'emplois comme ça, puisque bah oui, vous allez faire plus de boulot, donc vous allez absorber le travail de vos collègues. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Les théories économiques de ce type ont été largement démontées. Ça ne marche pas comme ça. Mais son idée à lui, donc, c'est que plus vous allez travailler dans la fonction publique, moins on aura d'emplois. Et ben lui, c'est là où je vous parlais de clientélisme et de populisme, il va vous proposer une politique salariale de revalorisation. Hein, vous voyez. En même temps, il faudrait lui rappeler que vous allez plus bosser. Donc en même temps, peut-être qu'effectivement, déjà, vous allez être mieux payé. Mais c'est pas le travailler plus pour être payé plus. Hein, le Sarkozy nous l'a déjà fait. Ça ne marche pas. Et puis même essayer de vous acheter, vous, mesdames et messieurs, les fonctionnaires, en vous proposant des pépettes, je ne suis pas sûr que ça marche. Alors, c'est vrai que je vous ai pas parlé aussi de la dame des sept, madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors elle veut renoncer à la durée légale du travail, mais on n'en sait pas plus. Hein, là-dessus, elle ne s'est pas bien exprimée. Elle veut aussi augmenter la durée légale du travail des fonctionnaires, mais c'est pareil, on n'en sait pas bien plus. Elle veut, si, là, elle veut passer à 35 heures, mais elle ne donne pas beaucoup de détails. 35, elle. Ouais. Ouais, parce que tu sais, tout le monde n'est pas à 35 heures, donc en fait, elle veut rééquilibrer le tout, elle. C'est ça la bonne idée, c'est rééquilibrer. Hein. On va vous prendre comme un beau pack et on va tous vous faire pareil, vous allez voir. Je ne vais pas parler de poisson, mais il ne m'intéresse pas. Alors, celui qui a le plus écrit, il faut quand même bien le dire, c'est monsieur Bruno Le Maire, qui nous a fait un gros pavé sur toutes ses idées. Lui, donc, il veut que ça soit l'accord d'entreprise qui soit toujours valide sur l'accord de branche, sur tout le reste. L'entreprise doit être au cœur du système. Elle doit décider de la durée légale du travail dans son entreprise pour ses salariés. Il y aura peut-être un droit de négocier. Ouais, on n'est encore pas tout à fait sûr avec monsieur le maire. Il veut permettre aussi aux toutes petites entreprises, aux TPE, de profiter des forfaits jours pour certains des salariés. Vous savez, il y a eu beaucoup de discussions sur ces forfaits jours. Il veut les réformer. Il veut aussi supprimer la durée minimale de 24 heures pour le temps partiel. Très franchement, c'est un temps partiel à 24 heures quand vous êtes au SMIC, et ça arrive souvent, hein, en particulier chez les femmes. Vous gagnez une misère. Hein, je vous laisse faire les calculs, même à 10 euros, même si le SMIC était à 10 euros. Allez-y. Hein, c'est du bruit, je vous le rappelle. Hein, même, allez, on rêve, il est à 10 euros le SMIC. Vous calculez sur 24 heures, vous allez voir au mois. C'est absolument ridicule. On ne vit pas avec ça. On ne fait que survivre. Donc, ces 24 heures, elles ont permis, en particulier à certains secteurs, comme l'associatif, comme le spectacle, d'éviter de proposer à des salariés des temps de travail qui sont de 21 heures. Hein, c'est ce qui se passait beaucoup avant. Parce qu'à 21 heures, mais là, vous êtes même plus dans la survie. Vous crevez juste la dalle. Donc, 24 heures, ça a quand même protégé une partie des salariés. Ça emmerde les patrons. Parce que oui, ils aimeraient bien aller en dessous pour éviter de dépenser trop d'argent, parce que dans l'associatif, c'est aussi ce qu'on vous dit, il n'y a pas d'argent. Pourtant, rappelons-le, dans l'associatif, le patronat peut profiter des emplois subventionnés, hein, les CAE, les CUI. Donc lui, il veut supprimer cette durée minimale de temps partiel. Allons-y, on va tout ouvrir. Et puis, il veut encourager les heures supplémentaires dans la fonction publique. Pareil aussi pour réduire la masse salariale, parce que messieurs et mesdames, vous êtes trop nombreux.
Ce qui est déjà pas mal le cas, notamment dans l'enseignement,
bien sûr,
où les
profs, bien sûr.
Certains.
Ah mais j'ai pas dit qu'ils étaient révolutionnaires hein, dans leurs propositions. Hein. Oui, tu disais sur les profs. Bon, ah, je t'ai coupé, excuse-moi. Je vous ai pas parlé non plus de monsieur Copé. Alors lui, il veut supprimer le statut des fonctionnaires. Donc voilà, je sais pas ce qu'il veut faire avec les profs, par exemple. Ça, c'est une grande question. Il veut mettre tout le monde à 39 heures aussi dans la fonction publique. Et puis, je vous disais, il y a les prisons, ça c'est l'autre sujet. Hein. Donc, soit on va tous aller au travail mal payé et dans des conditions pourries, à 48 heures par semaine, peut-être, à le savoir. Soit on va aller en prison, puisqu'ils sont tous et toutes d'accord pour augmenter le nombre de places de prison. Alors, monsieur Poisson, lui, c'est un petit peu, vous savez, celui qui donnera le chiffre le plus haut pour remporter la mise. Donc, lui, monsieur Poisson, il propose 30 000 nouvelles places. Ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas une surpopulation en prison, hein, attention. Hein. Il y a juste trop de gens en prison, tout simplement. 20 000 places pour Monsieur Sarkozy, Madame NKM et Monsieur Copé. On a 16 000 places pour Monsieur Fillon. Et Juppé, petit bras, ne propose que 10 000 nouvelles places en prison. Alors, bon, le seul truc que j'ai trouvé pour toi, Laurent, c'est un truc qui vient de Monsieur Bruno Le Maire. Je sors du travail et de la prison. Monsieur Bruno Le Maire a des idées sur la centrale nucléaire de Fessenheim. Et c'est le seul qui veut fermer cette centrale.
Ouais, parce que tous les autres, ils veulent la laisser.
La maintenir. Et il y en a qui n'ont même pas d'idée sur la question. C'est tout ça pour vous dire. Donc voilà, il ne faut pas oublier que ces gens ont quand même des idées qui vont largement nous brutaliser s'ils sont élus demain. Alors effectivement, tu nous disais que ce soir, nous allions parler de la famille d'Entreslang. Alors, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, vous savez que sur cette primaire, dans les médias, a été annoncé que Monsieur Fillon était en tête des sondages. Et qui a réalisé ce sondage? L'IFOP. Et là, vous me dites quel est le lien entre la famille d'Entreslang et l'IFOP? Eh bien, c'est que la famille d'Entreslang vient de se payer l'IFOP. Alors déjà, il faudrait vous rappeler que l'IFOP appartient jusqu'à présent, puisque tout ça doit encore passer. C'est un projet qui doit être soumis au comité d'entreprise. Donc la vente n'est encore pas tout à fait actée. Mais, excusez-moi, à qui appartient l'IFOP? Est-ce que vous vous souvenez chez vous, là? À une ex du MEDEF? À une madame? Madame Laurence Parisot, puisque sa famille, elle, détienne l'IFOP depuis les années 90. Et elle a annoncé mardi qu'elle cédait donc l'IFOP à la famille d'Entreslang. Alors la famille d'Entreslang, il faut se souvenir, c'est une famille qui est 56e fortune de France, qui a fait fortune dans le transport logistique, qui récemment avait vendu cette activité pour se replacer. Et cette famille détient déjà un autre institut d'enquête et de sondage, c'est l'institut A+A, qui est plutôt sur le domaine médical, en l'occurrence, qui est moins spécialisé que l'IFOP. Mais l'IFOP, nous, on en a une image un petit peu biaisée, je trouve. C'est qu'on pense toujours à la politique, parce qu'on entend tous ces sondages faits par les médias l'IFOP. Mais il ne faut pas oublier que l'IFOP, en fait, c'est d'abord des sondages pour les entreprises. Et c'est bien avec ça que l'IFOP, aujourd'hui, gagne sa vie. Un peu moins avec le secteur politique. Alors, quand je dis qu'ils gagnent leur vie à l'IFOP, ils ont un peu perdu des sous quand même. Donc, c'est pas forcément une bonne affaire financière pour la famille d'Entreslang. Par contre, c'est une bonne affaire politique et de mainmise sur les sondages. Tout le monde sait hein, que les sondages, ça pose toujours des soucis. On nous l'a encore fait le coup avec les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique où les sondages se sont trompés et les médias derrière tournent en boucle pour nous expliquer que les sondages, eh ben parfois ça ment ou ça se trompe. À chaque fois, c'est la même chose. Eh ben la famille d'Entreslang met les deux pieds dedans avec l'IFOP. Je sais pas si jamais ils ont l'intention de vraiment se développer dans le secteur, mais en tout cas, c'est un bon moyen pour eux de trouver une bonne assise. C'est pas des gens qu'on connaît bien, les d'Entreslang. C'est pas des gens, c'est pas une famille qui s'expose, mais ils font partie de ces familles françaises bien installées au niveau de l'économie et au niveau de la politique. Donc savoir que ils prennent la suite de Madame Parisot, c'est quand même aussi très intéressant. Petit coucou à Madame Parisot au passage.
Alors on va revenir sur la Turquie, l'épuration politique et ethnique continue, hein, puisque aujourd'hui on a appris que un Comer, alors c'est parce que en fait dans certaines villes, dans beaucoup de villes à majorité kurde, lors des élections, il y a eu une élection double, chaque fois il y a un homme et une femme qui sont maires. C'est souvent le cas dans ces villes de kurdes de Turquie. Donc là c'est le Comer de la ville de Van, dans le sud-est, donc à majorité kurde de la Turquie, qui a été arrêté. Alors, comme d'habitude, hein, la même excuse pour des liens présumés avec les rebelles kurdes et souvent sous-entendu le PKK. Bekir Kaya, c'est le nom de ce commère, a été incarcéré donc aujourd'hui dans le cadre d'une enquête antiterroriste. Donc voilà, c'est un mandat d'arrêt de plus émis contre un élu. C'est pas le premier. Hein. Et c'est pas le seul même dans sa mairie, puisque quatre autres responsables de la mairie sont poursuivis aussi. Alors faut savoir qu'il y a eu, lors de l'arrestation, il y a eu une mobilisation d'une partie de la population qui est venue témoigner de son soutien, et ils se sont fait tabasser dessus à coups de canon à eau, gaz lacrymogène et autres joyeusetés que peuvent envoyer toutes les forces de répression de tous les pays, et particulièrement donc ici en Turquie. Alors hier, c'était deux autres maires de deux villes de l'est de Turquie, Sirt et Tunceli, qui ont été arrêtés aussi. Alors même principe, hein, lien avec des rebelles du PKK ou des rebelles kurdes. Donc là, ils avaient carrément cité le PKK. Alors, mais c'était juste 10 jours après l'arrestation d'une dizaine de députés de la principale formation pro-kurde, hein, qui s'appelle le Parti démocratique du peuple, le HDP. Dont les deux coprésidents quand même du HDP. Bon voilà, ça continue, ça s'avance comme ça. On élimine, on épure tout ce qui peut rester dans le système turc qui aurait pu passer dans l'escarcelle de Kurdes. Alors en parallèle de toutes ces arrestations, de toutes ces limogeages, de toutes ces pratiques autoritaires que met en place Erdogan et son gouvernement, Erdogan prépare aussi une réforme constitutionnelle d'ampleur en Turquie. On en a parlé plusieurs fois, mais là ça avance un petit peu. L'idée, c'est qu'il puisse être président grosso modo jusqu'en 2029. Je vais vous expliquer pourquoi dans la réforme. Alors, la réforme se sert des prétextes des crises politiques, notamment de la tentative de coup d'État, et explique que, en fait, ils n'arrivent pas à gouverner parce que actuellement, au Parlement, il faut avoir la majorité pour gouverner, ce qui est le principe des démocraties. Hein, il faut une majorité pour gouverner, et justement, il faut faire des alliances parce qu'il n'y a pas un seul parti d'élus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, ça fonctionne pas bien, grosso modo. Et il veut transformer ça en régime présidentiel où il aurait quasiment tous les pouvoirs. Alors, même ses opposants historiques comme les Kémalistes, hein, le parti CHP, a déclaré que ce projet de révision de la Constitution, finalement, ne visait qu'à satisfaire les ambitions d'Erdogan, que ça risquait d'accélérer la dérive autoritaire, mais que ça n'avait pas de fondement réel et nécessaire à la démocratie turque. Donc voilà. Alors, l'AKP, pour faire passer cette réforme constitutionnelle, prépare un référendum. Un référendum, il y en a déjà eu un une fois, hein, pour valider le passage, en gros, d'Erdogan au rôle de président, hein, quelque chose comme ça, enfin, pour que tout se prépare pour qu'il puisse être président, ce qu'il est depuis. Là, ils préparent un nouveau référendum. Pour être sûr que ce référendum passe, ils sont obligés d'avoir le soutien d'un parti ultranationaliste qui s'appelle le MHP. Donc, ils préparent ce référendum et ce projet constitutionnel en tenant compte de l'avis de l'extrême droite turque, hein, puisque les ultranationalistes se situent bien évidemment, comme d'habitude, à l'extrême droite. Alors, grosso modo, dans ce projet, Erdogan, en tant que président, bénéficierait de nouvelles prérogatives donc qui prendraient effet le lendemain du référendum. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'il va proposer un changement constitutionnel et qui n'aura pas besoin d'être validé ensuite par le Parlement puisqu'il sera mis en place tout de suite. Hein, il devient le président au super-pouvoir. Donc ce super-président, qui récupérera ses pouvoirs juste après le référendum, il pourra donc se présenter à la présidentielle de 2019, hein, qui est la prochaine, et se maintenir au pouvoir s'il est élu jusqu'en 2024, terme du second mandat. Il n'y a que deux mandats autorisés, mais comme il y a une réforme constitutionnelle qu'il va faire, eh ben, son premier mandat qu'il est en train de faire ne comptera pas, hein, c'est prévu. Du coup, il pourra se représenter à nouveau en 2024 et rester jusqu'en 2029. Pas mal. Bon, après, il sera trop vieux, du coup, il s'est dit 2029, c'est une bonne année. Après, je prends ma retraite. Bon, c'est relativement inquiétant. En plus, alors, ce qui est le plus inquiétant, c'est les pouvoirs que va acquérir le statut de président, puisqu'il va pouvoir gouverner par décret sur à peu près toutes les questions qui relevaient jusqu'à maintenant de l'exécutif, c'est-à-dire du Parlement, sans avoir, bien évidemment, à consulter le Parlement, c'est le principe des décrets. Donc, il serait pas tout seul, il nommerait deux vice-présidents. Et il commanderait donc directement au chef d'état-major des armées, au service de renseignement, à tout ce qui est lié à l'université, à certains hauts fonctionnaires, à pas mal de choses. Alors, l'excuse d'Erdogan, il dit, mais attendez, c'est pas autoritaire ce que je fais. Regardez, je m'inspire de la 5e République française. Effectivement, on est un régime en France, un régime présidentiel, le président a certains pouvoirs, mais c'est quand même pas mal un régime parlementaire aussi quand même, hein, on peut le noter régulièrement. Donc il se sert de cette excuse-là en citant la France, en disant bah oui, regardez, je fais comme eux, bah parce qu'il a pas envie tout de suite de se faire virer de l'Europe et de l'OTAN, enfin des accords qu'il a passé avec l'Europe et de l'OTAN. Donc voilà, grosso modo, ce qu'est en train de préparer Erdogan, c'est qu'il finalise finalement sa prise de pouvoir quasi totalitaire sur l'État avec cette réforme constitutionnelle qui sera donc validée par ce référendum, qui a toutes les chances de passer, hein, comme le précédent était passé. Donc voilà, c'est quand même de tristes perspectives pour la Turquie. Et on va parler un petit peu de religion maintenant, avec trois petites infos. La première, c'est une bonne nouvelle. C'est un membre du Parti chrétien-démocrate, hein, dont tu parlais tout à l'heure de Poisson, Monsieur Poisson, qui est le candidat d'extrême droite, hein, qui est présent dans cette primaire de la droite et du centre. Donc un des membres de son parti, d'ailleurs le responsable du Parti chrétien-démocrate dans le Rhône, donc dans la région qui est autour de Lyon, puisque Lyon fait plus partie du Rhône, hein, je vous rappelle. On est maintenant une métropole. C'est une sorte de protectorat, de gouvernat. Voilà, on est autonome, Lyon, maintenant, avec un roi, hein, ou un empereur.
Un empereur, s'il te plaît.
Voilà, un empereur, GG, on l'appelle. Donc bref, le responsable du Parti chrétien-démocrate dans le Rhône va devoir payer 3000 euros à une asso qui s'appelle Mousse. Pourquoi ? Parce qu'il a publié des tweets homophobes. Des tweets homophobes. Bon, c'est pas le premier, mais c'est bien qu'il se l'ait pris dans la gueule. Donc il s'appelle Marc-Yvan Tessier. Il a été condamné donc le 15 novembre, il y a deux jours, par le tribunal correctionnel de Paris. Bon, il avait dit un truc assez traditionnel pour les homophobes, pour les catho-intégristes et toute cette frange. Il avait dit que le mariage homosexuel était une abomination et que l'homosexualité était une permission version et de la déviance. Ce qui est pas très réaliste. Donc, il a été condamné d'après le rendu des juges, là, c'est que ses propos risquent d'engendrer chez le lecteur un vif sentiment d'hostilité et de rejet. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, quand même. Si ça crée pas de la haine, j'y connais rien. Et il a ensuite eu droit à au deuxième effet qui se coule, on va dire, de la justice, c'est qu'il a aussi à payer 2000 euros de frais de justice, donc en tout, ça lui coûte 5000 euros. Bon, j'espère que ça lui servira de leçon, j'y crois pas. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà, Parti chrétien-démocrate, hein, qui contient quand même pas mal de ces gens racistes, hein, que ce soit du côté homophobe ou du côté des étrangers aussi, et pas lié à l'orientation sexuelle. On va aller à Dubaï maintenant. Donc territoire qui appartient aux Émirats Arabes Unis, hein, où toutes les lois découlent de l'islam. Et il y a une info qui a été donnée il y a quelques jours. Alors même si l'info est relayée au départ par le pire tabloïd qu'on connaisse en Angleterre, c'est-à-dire The Sun, l'info semble juste. Donc c'est une jeune femme britannique de 25 ans qui aurait été violée, qui a été violée a priori, on dit aurait parce qu'il n'y a pas eu de jugement de justice encore, à Dubaï, par deux de ses compatriotes en plus. Pas mal ça. Elle est allée porter plainte. Et elle s'est retrouvée inculpée pour relations sexuelles extra-conjugales. Moi, je dis big up. Hein. Là, c'est pas mal tout ça à Dubaï, hein, quand même. Voilà. Bon, si vous devez y aller, eh ben y allez pas. Hein. En tout cas, si vous êtes une femme, vous risquez beaucoup plus que les hommes. A priori, hein, les hommes sont très protégés puisqu'ils ont tous les droits, même de violer leurs compatriotes, puisque donc ces deux violeurs sont anglais. Donc, bon, il y aurait un film du viol en plus. Alors, depuis, la femme a été libérée, mais elle peut pas quitter le territoire. Il faut savoir qu'elle risque, elle, avec donc une peine de prison, voire un châtiment corporel. Hein, vous savez, on fait des châtiments corporels dans ces pays réactionnaires. Et puis, ça va lui coûter 28 000 euros de frais de justice, qu'elle n'a évidemment pas. Donc voilà. Alors, il y a un autre journal anglais qui s'appelle The Independent, qui a contacté le ministère des Affaires étrangères britannique après avoir lu l'article du Sun, pour demander ce qu'il en était, et le ministère des Affaires étrangères a dit qu'il était au courant et qu'il faisait tout pour venir en aide à la victime. Donc ça semble vraiment réel, et il y a des choses qui se mettent en place au niveau du gouvernement britannique pour la sortir des Émirats Arabes Unis, enfin de Dubaï très exactement, pour essayer de la ramener sur le territoire. Alors après, on espère qu'une fois qu'elle sera rentrée en Angleterre, ils poursuivront ces deux violeurs. Hein, parce que même si ça a été commis à Dubaï, il mérite largement une sanction. Hein. Donc voilà, c'est un endroit à éviter, Dubaï. Et puis un truc plus drôle, pour terminer cette micro-rubrique sur les religions, on va aller aux États-Unis. Il y a Monica Lujan, ou Luran, je ne sais pas comment ça se prononce, qui porte plainte contre sa prison. Alors c'est une femme, elle était emprisonnée dans une prison pour femmes du Nouveau-Mexique, et elle porte plainte parce que la prison l'a empêchée de pratiquer les rites propres à sa confession. Alors le truc drôle, parce que jusque-là, bon, c'est de la discrimination religieuse classique, le truc drôle, c'est que sa religion, c'est qu'elle est sataniste. Et que le satanisme fait partie des 19 religions répertoriées au Nouveau-Mexique. Du coup, elle a dit, bah, il m'empêchait d'avoir une Bible satanique, de pratiquer des messes noires, et ils l'ont brimée parce qu'elle était sataniste. Donc voilà, au nom de la liberté de culte, elle dépose plainte, voilà, parce qu'ils l'ont empêchée de pratiquer son satanisme. C'est quand même pas beau, la liberté religieuse, quand même, tout ça. On est proche du ridicule, quand même. Voilà, on peut le signaler.
Alors, on va parler un petit peu d'art, comme tu nous le disais tout à l'heure, et nous allons commencer avec Van Gogh. Vous êtes certainement au courant, Le Seuil, la maison d'édition, a publié aujourd'hui 65 dessins non signés de Van Gogh, période provençale. L'ouvrage s'appelle Le brouillard d'art, le carnet retrouvé. C'est un fac-similé commenté par Bogomila Velchov-Charov, 288 pages au prix de 69 euros. Voilà, vous savez tout. Alors, ce document est présenté comme inédit, inestimable. Il est publié simultanément au Japon, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est un ouvrage qui est présenté comme important et essentiel pour l'histoire de la peinture de Van Gogh.
Et si c'est non signé, on n'en est pas sûr. C'est ça que tu veux dire ?
On va y venir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Des esquisses préparatoires, on y trouve des premiers jets à main levée pour des tableaux jamais entrepris ou peut-être disparus, allons savoir. Des paysages, on trouve 10 portraits, dont un autoportrait. Cette découverte a été validée et confirmée par deux historiens d'art dits réputés, Bogomila, dont je vous parlais tout à l'heure, et Ronald Pickvans, spécialiste de la période provençale de Van Gogh. Van Gogh aurait fait don d'un carnet à ses amis Joseph et Marie Ginoux, qui tenaient un hôtel dans lequel il séjournait. Et puis, le carnet aurait été transmis aux héritiers, il aurait été perdu, oublié, puis redécouvert. Et donc, la maison d'édition, Le Seuil, nous propose ses dessins. Sauf que ça plaît pas à tout le monde. Le musée Van Gogh d'Amsterdam, qui est présenté comme l'autorité Van Gogh dans le monde, l'expert si vous voulez, a fait un petit communiqué une fois que Le Seuil a annoncé donc la sortie pour ce jeudi 17 novembre, en expliquant que les dessins du carnet seraient des imitations. Défaut donc, hein, ils n'y sont pas allés mollo. Alors ces experts du musée Van Gogh d'Amsterdam ont jugé ce carnet d'après des photographies. Alors on nous explique.
Ah oui, du coup c'est pas très fiable.
De la bonne photographie, on nous a dit. Ouais. Haute définition, HD.
Mais du coup il n'y a pas d'analyse du papier, de l'encre, tout ça là.
Non, mais ils estiment ne pas retrouver le style de Van Gogh dans ses dessins. Donc ils retrouvent ni le style, ni la technique, ni les matériaux, ni l'iconographie. Et ils estiment aussi, ces experts du musée Van Gogh d'Amsterdam, qu'il y a des erreurs topographiques. Alors, ce qu'ils appellent des erreurs topographiques, c'est que Van Gogh se serait trompé, par exemple, en dessinant un morceau de mur, et l'aurait pas mis au bon endroit, aurait inversé des scènes, ce qui ne lui arrive jamais. Hein. Van Gogh, il fait du fidèle. Alors, pour l'auteur du livre, Bogomila Velchov-Charov, elle estime, elle, que c'est ces croquis, ces dessins ont été faits lorsque Van Gogh était interné, et donc ça serait en fait des dessins de mémoire, et donc c'est peut-être comme ça qu'il se serait trompé. Vous voyez, chacun et chacune a bien son idée quand même. Hein. Du côté des experts du musée, on comprend pas bien comment l'encre a pu s'éclaircir avec le temps, puisque le carnet serait resté enfermé, fermé pendant un siècle, et donc comment est-ce qu'ils auraient pu l'encre aurait pu s'abîmer comme le papier. D'ailleurs, ils font aussi référence, ces experts, à la couleur brunâtre de l'encre. Je les cite, l'auteur des dessins doit avoir délibérément cherché des effets brunâtres. Apparemment, il ne savait pas que leur couleur d'origine était noire. Van Gogh dessinait en noir. Donc là, les experts vont aller chercher le matériau en disant, mais c'est pas avec ça qu'il dessinait. Donc ça ne marche pas. Et puis, il y a cette question quand même de d'où provient ce fameux carnet, puisqu'il a été retrouvé finalement récemment. On parle de cette famille Ginoux à Arles qui, connaissant Van Gogh, aurait pu récupérer ses dessins. Simplement, les experts n'y croient pas. La famille Ginou n'a jamais déclaré avoir la moindre œuvre de Van Gogh hein, dans les carnets, dans leur histoire. Ils n'ont jamais déclaré avoir une seule œuvre de Van Gogh. Donc, pourquoi n'auraient-ils pas noté qu'ils avaient ce carnet qui leur a été remis en cadeau? Et puis, les experts trouvent bizarre que ce carnet refasse surface comme ça. Mais du côté des deux spécialistes du seuil, on s'offusque et on dit mais non, ce carnet, il n'a pas été trafiqué, on l'a bien retrouvé. Donc là, c'est une bataille d'experts, comme il y en a beaucoup dans l'art que nous sommes en train de vivre. D'un côté, deux spécialistes qui travaillent de fait pour la maison d'édition. Et puis de l'autre, le musée Van Gogh d'Amsterdam, le gardien du temple du sacré, le gardien du Van Gogh. C'est difficile d'aller contre le musée, il faut le savoir. Le musée connaissait hein, l'existence de ces dessins, avait refusé de les voir, a finalement travaillé avec ses photos. Et puis le musée a attendu la sortie du livre pour diffuser son communiqué. Parce que notre avis antérieur sur le brouillard n'est pas inclus dans l'étude, le musée Van Gogh a choisi de divulguer ces informations, apprend-on dans le communiqué. Alors, pour essayer de calmer le jeu, le Seuil, la maison d'édition, a proposé aujourd'hui au musée Van Gogh d'Amsterdam d'organiser un débat public entre experts pour mettre un terme à cette polémique. L'idée, c'est de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles le musée Van Gogh prétend exercer de fait un monopole d'attribution. Je cite le Seuil. Il faut dire que le musée répond quand même à une des critiques. Hein. Il y a une demande du musée Van Gogh qui était de réexaminer le carnet, de le soumettre à un nouvel examen plus approfondi puisque le musée Van Gogh estime que ce carnet n'est pas fiable, que d'autres éléments qui l'accompagnaient ne le sont pas non plus et que tout ça c'est de l'imitation, c'est du mensonge et que le Seuil sort un ouvrage aujourd'hui qui est un ouvrage faux, une escroquerie. Il faut se souvenir malgré tout, comme le rappelle l'AFP dans un de ses papiers, que le musée Van Gogh a déjà commis des erreurs d'attribution. On se souviendra du coucher de soleil de Montmajour qui avait été identifié comme un faux avant d'être réattribué à Van Gogh. Le truc dans toutes ces histoires, c'est que c'est que des batailles d'experts et que ce sont ces experts qui donnent leur avis. Et en fait, ils sont que experts, ils ont jamais vu Van Gogh peindre ses tableaux. Il faut qu'il y ait des sources. Vous savez, des choses qui vont se croiser. On va avoir quelqu'un qui va raconter voir Van Gogh peindre ce tableau. On va avoir peut-être quelqu'un même qui va en avoir fait une copie et qui va donc peut-être pouvoir prouver par là même que Van Gogh a bien fait un original. Mais là, on a quand même souvent des gens, comme dans les films d'Hollywood, hein, qui se mettent devant la peinture, qui le regardent avec une petite loupe et qui vont vous dire c'est un vrai, c'est un faux. Ça repose dans les mains tout ce marché de quelques personnes et ces personnes sont en train de se fitre sur la figure. Il faut bien le dire, reste que le machin est toujours en vente. C'est pas moi qui vais vous donner un avis sur la question pour savoir si c'est vrai ou faux. En plus, je suis pas du tout une spécialiste de Van Gogh, il faut bien le dire. Alors, on va poursuivre avec de l'art contemporain. Puisque les plasticiens nous font bien bien rire. Alors peut-être vous souvenez-vous qu'au mois de mars dernier, Anish Kapoor, je vous rappelle le Vachon de la Reine par exemple, a fait un scandale dans le secteur de l'art avec les artistes contre lui, puisqu'il s'est retrouvé détenir le monopole d'un nouveau noir, le Vanta Black, mis au point par une société, le Surrey Nanosystème. Et Anish Kapoor a payé pour obtenir l'exclusivité de l'utilisation de ce noir. Alors c'est pas une couleur en fait ce noir, c'est un matériau composé de minuscules nanotubes de carbone et c'est assez extraordinaire parce que ce Vanta Black a la particularité d'absorber 99,6% de la lumière.
Ça veut dire que c'est un vrai noir ultra profond quoi.
C'est un truc incroyable, c'est le Saint Graal hein, pour les artistes ce noir, c'est un truc absolument si vous avez un truc qui est pas droit, vous avez un truc qui gondole, et ben ça va le rendre tout lisse, enfin c'est absolument incroyable. Et donc il a acheté en fait à Surrey Nanosystème l'utilisation de ce Vanta Black et il a créé un monopole, ce qui a fâché beaucoup de gens dans le milieu d'art contemporain et pas seulement. Alors du coup il y a eu une petite réaction très récemment qui vient de Stuart Semple, excusez-moi, un autre plasticien. Alors lui il a créé un pigment pink. C'est le rose le plus rose du monde, The World Pinkest Pink, qui est en vente pour 3,99 livres sur son site internet. Pour tout le monde, sauf pour Anish Kapoor. Puisque Anish Kapoor ne veut pas partager son noir, on ne va pas lui offrir ce tout nouveau rose. C'est un rose très très éclatant, limite fluo, mais qui se veut aussi très pur dans ce fluo-là. Alors d'ailleurs, je vous parle de couleurs, mais il faudrait d'ailleurs parler plutôt de nuances. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donc aller sur le site de Stuart Saint-Paul, aller acheter ce pink, mais vous allez devoir signer une déclaration sur l'honneur qui dit « Vous déclarez que vous n'êtes pas Anish Kapoor, que vous n'êtes en aucun cas en relation avec Anish Kapoor, que vous n'achetez pas cet article pour le compte d'Anish Kapoor ou l'un de ses associés. À votre connaissance, cette peinture ne finira pas entre les mains d'Anish Kapoor. » Voilà le petit texte que je vous ai traduit, qui est donc sur ce site en anglais, qui accompagne donc la vente de ce produit. Alors, on est un peu de l'ordre du symbolique, hein, évidemment, en plus pour un prix ridicule de 3,99 €, nous sortir un nouveau rose. Mais voilà, c'est une manière de faire comprendre à Anish Kapoor, qui est quand même un homme riche, hein, dans le monde de l'art contemporain, qui travaille avec un certain nombre d'assistants, qu'il n'est pas tout seul, et que d'autres existent autour de lui, et que ça a été très mal vu, son affaire d'acheter ce monopole, et que c'est pas comme ça que ça marche dans le monde de l'art. Il y a encore des petits naïfs. Hein. Bon, on rappellera quand même qu'il y a un certain nombre de nuances, hein, qui sont déposées par des entreprises. L'orange d'Orange, l'opérateur téléphonique, le jaune de Nikon, hein, tu vois un petit peu comment il est, le jaune de La Poste aussi d'ailleurs, voilà, ce sont des Pantone qui sont déposés et qui appartiennent à ces entreprises. Mais je laisserai quand même la parole à Stuart Saint-Paul, qui a déclaré au magazine The Creators Project: je ne changerai pas d'avis tant qu'Anish n'aura pas partagé le noir, c'est lui qui a commencé, nanana, c'est plasticien, il nous faut quand même bien rire.
Voilà, on va retourner vers la lutte sociale maintenant avec quelques petites infos sur ce qui se passe dans l'enseignement dans les écoles à Lyon. La première, c'est aujourd'hui il y avait une grève dans les lycées qui sont un peu mis de côté sur la réforme de l'éducation prioritaire qu'a mis en place Najat Vallaud-Belkacem. Donc il y avait quelques lycées concernés par les zones d'éducation prioritaire, hein, donc plutôt autour de Lyon et pas dans Lyon, hein. Il y a Marcel Samba à Vénissieux, enfin des choses comme ça, qui étaient mobilisés aujourd'hui et qui étaient en grève. Il y a aussi le lycée Lumière qui est en grève, parce qu'ils estiment que... ils constatent que l'établissement qui a été construit à la fin des années 50 est quand même dans un état largement dégradé. Il y a des choses qui ont été refaites, mais les salles de classe, pas vraiment. Il y a des problèmes énormes. Donc, ils étaient aujourd'hui mobilisés devant la région pour dire nous on voudrait que l'argent aille aussi dans la rénovation des salles de classe. Il y aurait dû y avoir hier soir à l'école Michel Servet, hein, qui est au bout de la rue d'Alsace-Lorraine, si ma mémoire est bonne, ou rue d'Alsace tout court d'ailleurs, sur le bas des pentes de la Croix-Rousse, à côté de la place Croix-Paquet, l'école qui respire les gaz d'échappement du tunnel de la Croix-Rousse. Une mobilisation, alors ça fait partie d'un ensemble de mobilisations de soutien aux parents qui ont des enfants scolarisés et qui sont à la rue. Donc là, je crois que l'école Michel Servet, il y a 3 familles qui sont concernées. Donc il y a déjà eu plusieurs bouffes de soutien, des choses comme ça. Donc hier soir à 18h, il y avait un concert de Renaud Bistan de soutien, et puis après il devait y avoir des interventions des parents pour présenter des choses, pour lire des contes, et il y avait un buffet participatif organisé par les parents. Et quand ils sont arrivés, la police municipale, vous savez, la milice aux ordres de notre empereur Gérard Collomb, empêchait l'accès des militants, des gens qui venaient soutenir, des familles, de Renaud Bistan aussi, à la salle dans laquelle ils allaient faire, qui est dans l'école, et ils allaient faire le concert et la soirée de soutien, ils ont bloqué les choses. Alors Renaud Bistan a chanté dehors, hein, mais ça a pas pu se faire. Et il faut savoir que ensuite la ville a mis un vigile toute la nuit devant l'école, ce qui fait dire d'ailleurs à certains militants que même si ce jeune vigile est payé à coup de lance-pierre, c'est-à-dire au SMIC horaire, ils auront plus dépensé pour le prix du vigile que s'il avait fallu payer une nuit d'hôtel aux 3 familles qui sont à la rue. Comme quoi, la ville de Lyon et Gérard Collomb fait des choix, préfèrent laisser des gens à la rue et dépenser de l'argent pour mettre un vigile devant. C'est quand même un drôle de choix, en tout cas très inhumain. Et puis, Collège Barbus, hein, aujourd'hui, c'est... l'anniversaire des deux semaines d'occupation. Donc là, c'est pareil, hein, c'est toujours dans le cadre de soutien aux familles des enfants scolarisés qui sont à la rue. Donc là, il y a trois familles aussi concernées. Ça fait 15 jours qu'ils sont en mouvement, en occupation pour loger ces familles. Ils attendent toujours que l'inspection académique, que Lyon Métropole, GG, c'est-à-dire, se bouge pour essayer de trouver un moyen de loger ces familles. Voilà, il y a pas mal de mobilisations comme ça qui sont très locales. Il y a Gilbert Dru aussi dans le 7e qui s'est mobilisé aussi, avec des sanctions à la clé d'ailleurs, peut-être pour les profs. Donc voilà, qui nous rappelle que effectivement une bonne partie des enseignants continue de leur soutien, soit aux sans-papiers, soit aux sans-abri, même si c'est à travers les enfants, puisqu'ils sont concernés directement, ces profs, puisqu'ils ont dans leur salle, dans leur classe, des enfants qui dorment tous les soirs à la rue. C'est quand même pas terrible. Voilà, on soutient toutes ces actions, bien évidemment. Un petit mot d'environnement, un petit mot de nucléaire pour terminer ce Canu Info. Alors, le petit mot, ça nous vient d'abord d'une étude qui a été mandatée par Greenpeace, faite par Alpha Value, un cabinet d'analyse financière indépendant, et qui a été publiée aujourd'hui. Donc, en fait, l'idée hein, pour Greenpeace, c'est de nourrir sa campagne anti-nucléaire. De ce rapport-là. Donc, ce rapport pointe les trois points sensibles qui concernent l'avenir d'EDF, puisque ce rapport se concentre sur la société EDF. Alors, on sait que c'est une catastrophe chez EDF. C'est une entreprise au départ du CAC 40, hein, puisque c'est une énorme entreprise française, sauf qu'elle est exclue du CAC 40 depuis décembre 2015, ça commence à faire. L'action a perdu 31% de sa valeur. Aujourd'hui, ça vaut à peu près 10 euros une action d'EDF. Il y a un temps où ça valait 80 euros. Donc, c'est en train de fondre à tour de bras, mais c'est même plus coté, vous n'avez qu'à voir. On peut en tout cas au CAC 40. Alors, dans les trois points, alors, on va les étudier rapidement. Le premier point délicat, c'est sur la valeur des centrales. Alors, le rapport, enfin la société, le cabinet d'analyse très exactement, a comparé la valeur que EDF a mis de chaque centrale nucléaire. Ils estiment que, comme suivant la durée de vie, l'âge, etc., cette centrale vaut tant de millions d'euros. Ils ont comparé avec les centrales équivalentes allemandes, un des deux constructeurs en Allemagne qui ont des centrales nucléaires et qui ont fait des rapports, E.ON et RWE. Et bizarrement, EDF surévalue énormément ses centrales. Elles valent beaucoup plus cher qu'ailleurs. Allez comprendre pourquoi. Alors on a idée que ça, cette survalorisation des actifs EDF, fait croire qu'EDF est une société en bonne santé. Alors que ça l'est peut-être pas. Deuxième problème montré par l'étude d'Alpha Value, c'est sur les investissements. Alors si on inclut Hinkley Point, hein, ce projet de deux centrales nucléaires en Angleterre, mais si on inclut aussi la remise à niveau des centrales nucléaires actuelles, etc., tout ce qui est prévu, Alpha Value évalue entre 16 et 17 milliards d'euros par an sur les 10 prochaines années, donc ça fait 170 milliards d'euros, que EDF doit investir dans ses centrales nucléaires, enfin dans son matériel de production d'électricité. C'est beaucoup plus que ce que Jean-Bernard Lévy a expliqué sur l'horizon 2018, où lui, il estimait à 10,5 milliards d'euros, alors sans Hinkley Point, certes, mais sur juste quelques années. C'est quand même bizarre. Et puis le troisième point, ça touche à la déconstruction et au démantèlement des centrales nucléaires, où là le rapport estime qu'il manque, parce que EDF est censé provisionner, c'est-à-dire mettre de côté le coût du démantèlement des centrales, et là d'après eux il manque 50 milliards d'euros. Alors c'est pas la première fois qu'on dit ça sur EDF. Alors du coup, si on calcule tout ça, les actifs surévalués, le passif, donc c'est-à-dire le démantèlement sous-évalué, les investissements qui sont mal pris en compte aussi, EDF, ça ressemble pas du tout à une société qui va bien, mais ça ressemble à une société qui est à la limite du dépôt de bilan. Donc, ça expliquerait pourquoi il y a une grosse différence entre le rapport de ce cabinet d'études et le rapport officiel d'EDF, parce que la situation est peut-être pas aussi belle que le laisse entendre le gouvernement ou Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF. Donc, ça va pas très bien, grosso modo, si on suit le rapport. Ça semble quand même plus réaliste que le rapport d'EDF lui-même sur la situation d'EDF. Et le copain d'EDF, c'est Areva. On va parler après d'ailleurs de la partie d'Areva qui est mangée par EDF. Là, Areva, ils viennent d'obtenir l'autorisation de doubler la capacité de stockage de La Hague. Alors, faut savoir que à La Hague, on appelle ça du retraitement, mais c'est pas du retraitement. Hein, on sépare les éléments radioactifs en éléments très radioactifs, moyennement radioactifs, etc., etc. Et les très radioactifs sont fondus dans des fûts en verre, sont vitrifiés. Et après, ces fûts, à un moment, ils seront entreposés dans le truc qui va se construire à Bure. Là. Le problème, c'est que quand on les met dans ce verre, c'est très chaud et c'est trop radioactif pour être manipulé. Du coup, c'est mis dans des piscines et c'est stocké. Et ça doit être stocké quand même pendant plusieurs dizaines d'années, voire jusqu'à 100 ans, avant de passer dans le site d'enfouissement. Et là, ils sont, d'ici la fin de l'année prochaine, pleins à La Hague. Ils avaient le droit à 12 636 colis, ça s'appelle des colis de déchets radioactifs. Et c'est, du coup, ils sont coincés, ils peuvent plus travailler. Donc, il y a un décret qui est paru comme ça, sans débat au Parlement, juste pour dire, on double la capacité de La Hague. Voilà, ça fait deux fois plus de radioactivité pour les habitants, les pourtours, les poissons, tout ce qui est autour de La Hague. Et puis les deux petites dernières infos, de manière assez brève, c'est officiel aujourd'hui, EDF rachète la partie centrale nucléaire d'Areva. Areva va se reconcentrer sur son soi-disant cœur de métier, c'est-à-dire l'extraction, le traitement de l'uranium avant de le vendre à EDF. Et la partie gestion des centrales nucléaires a été donc rachetée pour 2,5 milliards à EDF. On savoir qu'après, Areva va être recapitalisé à hauteur de 5 milliards d'euros payés par l'État français, c'est-à-dire par les impôts de vous et de moi. Voilà. Et sinon, vous avez peut-être vu les images du fameux sarcophage géant qui est mis en place sur Tchernobyl, sur la centrale, sur un des quatre réacteurs, le réacteur qui a explosé, il y en a qu'un qui a explosé à Tchernobyl, puisque l'ancien est en train de s'écrouler, menace de s'écrouler en tout cas. Il fuit légèrement aussi. Du coup, il y a ce nouveau sarcophage. Donc, c'est tous les records du monde hein, en qualité, en quantité d'acier. Voilà. Il avance. Il est sur roue, enfin sur un truc roulant. Il avance tout doucement. Ça avance centimètre par centimètre, hein, c'est vraiment très très lent. Il a commencé déjà, il a bien avancé et il faut attendre le 29 novembre pour qu'il atteigne le bout. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des robots qui vont démanteler l'ancien sarcophage pour pas qu'il s'écroule dedans, en fait, et qu'il fasse ressortir la radioactivité. Le nouveau sarcophage qui est garanti pour à peu près 100 ans. Bon, quand on sait qu'il faut au moins 50 000 ans minimum, voire 100 000 pour que la centrale redevienne pas dangereuse, ça veut dire que tous les 100 ans, il y aura un nouveau sarcophage qui va être construit. C'est la classe, le nucléaire, quand même. Hein. Ça donne du travail et de la pollution pour des centaines de milliers d'années.
Et je me suis demandé, moi, si à chaque fois il faut remplacer ce sarcophage, il va falloir qu'il soit toujours plus gros, oui, pour pouvoir aller au-dessus du précédent, comme une poupée russe, non ?
Exactement.
Donc on va toujours dans des délires, en fait.
C'est génial.
C'est fou. Mais
le nucléaire, c'est le bonheur. Et ouais. Voilà pour ce Canu Info. Un petit agenda. Toujours dans le cadre du mois de novembre libertaire, je vais donner deux petits rendez-vous. Celui de demain à 18h30, ça a lieu au bar Les Clameurs, qui est 23 rue d'Aguesso, dans le 7e arrondissement. C'est autour de l'autogestion en acte, deux points, c'est le titre. Travailler et décider ensemble sans patron. Discussion avec plusieurs salariés de coopérative, puisque c'est l'alternative au travail, aux entreprises libérales traditionnelles qui enrichissent soit le patron, soit les actionnaires. Les coopératives, quand elles sont bien faites, c'est-à-dire où il n'y a que des coopérateurs, tout, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait double système, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on est tous coopérateurs dans une vraie coopérative, et dans ces cas-là, il y a un partage du travail et des ressources, etc.
Et ce serait super pour les associations qu'elles changent justement en coopérative.
Voilà. Alors, dans ceux qui sont invités, il y a Alter Conso, de l'autre côté du pont, de l'autre côté de la rue, et la mi-cyclette qui fabrique du pain, et pour les connaître très très bien, c'est une vraie coopérative, hein, ils sont tous associés, enfin coopérants, voilà, et puis bon, en plus ils font du pain très bon, et ils le font dans les vraies règles de l'art, vous risquez rien en mangeant leur pain, il n'y a pas un poil de pesticide, pas un petit poil qui traîne, même l'eau, elle est filtrée parce que l'eau du robinet, elle n'est pas assez bien pour eux. Hein, c'est la classe quand
même. C'est un peu du puriste quand même.
Ouais, mais c'est ils sont sympas.
J'en doute pas. Non, mais les puristes peuvent être sympas, écoute.
Ouais, tout à fait. Et l'autre info que je voulais donner, c'est celle, le rendez-vous au Cédrat. Ça doit être géré par Mimo du Cédrat, 27 Montée Saint-Sébastien, place Croix-Paquet. C'est samedi à 18h, ça s'appelle le défi libertaire aujourd'hui. C'est un débat, donc le but c'est de débattre avec des différents libertaires, différents individus, différents collectifs sur ce que c'est qu'être libertaire et comment on travaille ensemble ou le plus ensemble possible. Donc voilà, c'est samedi.
Et ben on va vous laisser pour ce soir et on se retrouvera jeudi prochain. Et voilà. Et on vous souhaite une bonne soirée, bien du courage.
Et puis dans 5 minutes normalement, il y a une autre émission. Là on vous laisse pendant 5 minutes avec les bandes continues de la plus rebelle des radios.
Ciao ciao.
Bye bye.